Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 132e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 8h avec notre sélection d'actu. Une sélection d'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour, c'est moi. Ça va?
Ça va et toi?
Oui, impeccable. Écoute, trop bien. En plus, là, aujourd'hui, on a peut-être des gens qui nous écoutent en allant au travail.
C'est vrai. Un peu dingue. C'est vrai.
Peut-être. Enfin, je ne vous le souhaite pas en même temps. Hein. Genre, ne déconfinez pas trop fort. Apparemment, quand on fait ça, on se retrouve entre quatre murs assez rapidement. Ouais. D'après ce que nous disent nos amis du forum basé en Amérique du Sud. Donc, faites attention. Voilà.
Allez, on va y aller tout de suite avec une promo pour Disco Elysium que je n'ai toujours pas fait.
Eh bien, c'est très bien. On continue. Ah, tu l'as déjà acheté, donc tu t'en fous. Donc oui, il est en ce moment en promo à 30€, mais c'est surtout pour vous annoncer que cette promo est aussi l'occasion pour les petits gars de vous annoncer qu'ils ont sorti un patch qui optimise des choses, car il y a des gens qui jouent sur des brouettes où Disco Elysium peut ramer. je savais pas que c'était possible, mais bon, bref, c'est une bonne nouvelle. Ils ont fait d'ailleurs des vannes autour de ça. Non, la vraie nouvelle, c'est qu'il y a plein de traductions en route. Alors, il y a de l'espagnol, du coréen, du russe, du portugais, brésilien, mais il y a surtout évidemment du français et de l'allemand pour ceux qui aiment bien les choses à côté de chez nous, qui sont en développement. Donc ils se sont associés avec un studio qui s'appelle Testronic Labs, qui est a priori une grosse maison de trad dans le jeu vidéo en tout cas, et qui est sur le coup. On n'a toujours pas de date malheureusement, mais pour ceux qui avaient très envie d'y jouer, parce que on en dit du bien depuis un moment de celui-là, ça va pouvoir être possible, même si on ne maîtrise pas l'anglais, car oui, le niveau d'anglais de ce jeu n'est pas franchement à la portée du premier venu. Et puis pour revenir sur ma vanne, sur la puissance des machines nécessaires pour faire tourner ce jeu, je m'excuse qu'ils ont été très loin, j'avais pas fait gaffe dans mes notes, mais en fait maintenant le jeu tourne sur un MacBook Pro de mi-2009.
Ah oui,
si
pas
vraiment
mal.
S'il vous reste que ça. C'est ça, et donc ils ont fait le titre de la news, c'est Working Class Update. Quand vous avez fait le jeu, vous comprenez, parce que évidemment il y a énormément de choses dans le jeu qui tournent autour de cette guerre des classes. Donc voilà, ça sera très intéressant, mais ça sera encore plus intéressant quand on aura des dates.
Allez, on passe du côté de Epic, qui a sorti une démo assez impressionnante, je dois dire, du nouveau Unreal Engine.
Oui, il s'en passe des choses chez Epic aujourd'hui. Alors on commence par effectivement la news de la semaine, qui est la démo de l'Unreal Engine 5. Alors d'habitude on s'en fout un peu des démos technique, oui, parce que les démos ne rendent pas les coups, comme on dit chez nous. Sauf que la démo était annoncée comme étant une démo faite sur PS5, donc PlayStation 5, et qui était visuellement assez bluffante. Le truc rigolo, c'est ce qui a été d'ailleurs le plus impressionnant montré par Sony jusqu'à présent. Donc, on attend vraiment des démos de jeux qui défoncent. Donc, cette annonce de l'Unreal Engine 5 est une bonne nouvelle pour les développeurs. Alors, évidemment, il y en a qui râlent parce que c'était du 1440p à 30 fps seulement. Oh mon dieu. Oui, la flotte était pas extraordinaire. Oui, le visage de la nana aurait pu être mieux. C'est en temps réel, les mecs, détendez-vous. Et puis, c'est une démo technique. Hein. C'est là pour vous montrer les effets de lumière, etc. C'est pas du tout pour vous montrer des trucs incroyables. Regardez, Pixar n'a plus besoin de machines. Ils peuvent tout faire en temps réel. Non. Ce n'est pas tout de suite prévu. Donc là, vraiment, c'est une démo qui est intéressante à plein de niveaux, qui finalement ne sent pas trop le bullshit, et mon petit doigt m'a susurré qu'a priori il y avait effectivement que du concret dedans. Est-ce que les concurrents sont à la ramasse? On ne sait pas. De toute façon, il faut rappeler un truc, c'est que l'Unreal Engine 5, c'est vraiment quelque chose de hyper important dans le business, et encore plus parce que le business model autour de ce moteur 3D, et plus que moteur 3D d'ailleurs, est réellement très différent de ce qu'on a l'habitude de voir depuis des années. Alors, je rappelle déjà que la bêta est prévue pour début 2021. On n'y est pas encore. Il reste un petit peu de temps avant que les gens puissent...
Encore quelques fois dormir.
Voilà, encore quelques fois dormir avant de s'y mettre. Mais c'est surtout donc que le moteur reste gratuit. Et les développeurs donc n'ont pas à sortir le moindre billet tant qu'ils n'ont pas gagné $1 million de revenus bruts générés par le jeu développé avec ce moteur.
Pas mal.
Donc c'est juste un confort de taré quand tu t'appelles pas Ubisoft, Rockstar, etc., où tu fais tes trucs in-house en fonction du projet, où tu as des tas d'ingénieurs qui vont pouvoir faire tes outils sur mesure. Bah c'est juste génial. C'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Alors après, attention, hein, ça se développe pas tout seul. Hein. C'est pas parce que t'as les outils que tu vas faire ton jeu en claquant des doigts. Mais c'est déjà un obstacle énorme qui est levé. L'autre truc qui était annoncé, mais qui est passé un peu plus inaperçu, parce que forcément, visuellement, bah, y a rien à montrer, c'est la disponibilité de ce qu'on appelle l'Epic Online Services, avec un S, il y en a plein, qui vont être en libre accès. Donc, c'est des outils qui, en fait, ont été développés par Epic pour Fortnite. Et c'est un truc qui gère les listes d'amis, le matchmaking, les salons, les succès, le classement, les comptes utilisateurs, et le tout sur 7 plateformes. Donc PlayStation, Xbox, Switch, PC, Mac, iOS, Android, la totale, boum, c'est vraiment impressionnant. Et c'est un truc qui va du coup être disponible pour tous les développeurs de jeux aussi, hein, comme pour l'UE, directement pour pouvoir faire vos fonctions de gestion de matchmaking, par exemple, online, etc., sans vous prendre la tête à développer tout ça de zéro. Donc c'est un complément au moteur graphique et à tout ce qu'ils avaient déjà proposé côté réseau, etc., qui est juste ultra intéressant. Et les gens qui ont une idée de gameplay et qui veulent se concentrer sur le jeu n'auront plus à se taper tous ces trucs-là. C'est une excellente nouvelle aussi et ça reste gratos.
Et puis on reste chez Epic avec les grosses soldes en ce moment.
Ah oui, enfin, si on arrive jusqu'au magasin. Parce que donc c'est le début des méga soldes Epic Games. C'est les soldes qui vont être intéressantes. Il y en a tous les étés sur tous les stores. Il y en a tout le temps de toute façon sur tous les stores en ce moment. Mais là, c'est les soldes qui commencent aujourd'hui, qui vont finir le 11 juin. Donc vous avez 4 semaines devant vous. Mais le problème, c'est qu'ils ont ouvert ça avec une offre d'un jeu gratuit qui est GTA V, un petit jeu pas très connu, donc évidemment a fait exploser le store. Il est impossible actuellement de se connecter sur l'Epic Game Store, ce qui est assez rigolo et cocasse. En revanche, bon, ne paniquez pas, hein, GTA V est offert jusqu'au 21 mai à 17h, donc ils ont le temps de réparer leurs bêtises. Et je rappelle que pendant les 4 semaines, donc ils vont offrir des jeux gratos régulièrement et que pour chaque jeu que vous achèterez de plus de 14,99€, c'est extrêmement précis, vous aurez un coupon de 10€ gratos pour claquer sur un autre jeu de votre choix sans problème et qui est généralement valable assez longtemps. D'ailleurs, je crois que j'ai perdu le mien car je n'ai pas trouvé un truc à acheter la dernière fois qu'ils ont fait ça. Et dans les réduits, il y a des trucs hyper intéressants. J'en ai noté juste deux. Control qui est dispo à moins 50%. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez un shooter un petit peu décalé avec un univers intéressant, vous pouvez foncer. Et Red Dead Redemption 2 qui sur PC aura des réductions jusqu'à 40% en fonction de l'offre que vous prenez avec les passes diverses et variées.
Ok, pas mal tout ça, donc ça va encore rajouter ma liste d'attente de jeux que je ne finirai jamais.
C'est ça, le backlog ne s'arrête jamais, sachez-le.
Alors, est-ce que tu avais joué à Thimbleweed Park ou pas?
Oui, il est, tu vois, la pile de backlog, il est installé, j'ai une sauvegarde à peu près, allez, après une petite heure de jeu, donc autant dire que je peux recommencer du début, car je ne me rappelle plus de rien.
Donc c'était le point and click qu'avait sorti Ron Gilbert, on ne présente plus, hein, le pape du point and click, c'était en 2017. Alors, il avait pas mal divisé de mémoire. Il me semble qu'il y a des gens qui avaient vraiment beaucoup aimé, d'autres un peu moins. Il faut savoir que c'est un jeu qui est quand même assez méta, donc voilà, il y a des gens chez qui ça passe pas. Tout ça pour vous dire que donc Ron Gilbert, qui se fait chier comme tout le monde pendant la période de confinement, il bosse en fait sur un prototype de nouveau moteur qui est plutôt sympa pour ses futurs jeux d'aventure. Et du coup, comme il bosse sur un nouveau prototype, il a aussi créé une espèce de mini-jeu qui est une sorte de spin-off de Thimbleweed Park qui s'appelle Delores Thimbleweed Park Mini Adventure. Et donc, c'est un petit jeu d'aventure qui va vous occuper 2-3 heures, je dirais, gratuit, qu'on peut récupérer sur Steam en ce moment. Et voilà, Ron Gilbert a déclaré, donc, par rapport au développement de ce jeu, les gens gèrent différemment l'isolation, la distanciation sociale et l'accumulation compulsive de papier toilette. Moi, j'ai construit un jeu, ça m'a aidé à rester sain d'esprit. Donc voilà, si vous voulez aller tester, donc, ce nouveau moteur, ce nouveau prototype, et au passage, faire un petit jeu qui est encore une fois assez méta, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, c'est gratuit, c'est dispo sur Steam, et on vous linkera, bien évidemment, la page du store Steam dans le billet qui accompagne ce podcast. On reste dans le gaming avec des news du côté d'Apex Legends.
Oui, parce que nous, on aime bien faire des news toutes les semaines sur Apex Legends, parce que je ne suis pas très, comment dirais-je, précis à chaque fois, donc je suis obligé d'en mettre une couche la semaine d'après. C'est pas de ma faute, ils annoncent les choses par petits bouts, et puis bon, bah là, cette fois, j'ai pu y jouer. Donc, hein, voilà, maintenant, je sais de quoi je parle, c'est mieux, je préfère dans ces conditions.
C'est plus pro.
C'est ça, c'est plus pro, et on sait de quoi on parle, c'est bien. Non, c'était pour revenir sur The Broken Ghost, qui est en fait un peu le truc intéressant de la saison 5 d'Apex Legends, qui, au passage, dispose avec ce dernier patch d'une patch note de 4,5 km que je vais vous épargner, mais que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, parce qu'il y a plein de choses. Et avant de rentrer donc dans cette histoire de Broken Ghost, qui est en fait un système de scénario à l'intérieur pour évidemment vous faire venir jouer tous les jours, ils ne sont pas stupides, ils ne veulent pas que vous retourniez sur d'autres Battle Royale très colorés. Les choses à retenir de cette nouvelle version, c'est l'arrivée évidemment du nouveau personnage qui s'appelle Loba, qui est hyper intéressant à jouer. Elle a une espèce de truc qu'elle balance et qui lui permet de se téléporter dessus à des distances relativement raisonnables, donc ça va, mais c'est encore un perso qui peut jouer avec la verticalité des maps assez facilement. Et elle a une ulti qui est assez rigolote, puisqu'en fait elle déplie un espèce de parapluie hologramme, je sais pas trop comment dire, enfin elle a un bâton en fait qui va se transformer en Black Market, et en fait dans toute la zone couverte par le bâton, qui est une zone relativement large, ça va en fait vous donner accès direct à deux objets que vous pouvez choisir au choix. Donc tout ce qui est en fait dispo dans la zone d'action de son bâton, si vous voulez, au lieu de vous faire chier à aller looter ces trucs-là et les trouver, etc., tout va être listé d'un coup dans le Black Market et vous pouvez en choisir deux par joueur en fait de votre équipe. Alors, c'est rigolo puisque ça permet de looter des choses assez facilement ou carrément de faire des moves en jeu qu'on ne pouvait pas envisager avant, du style il y a des caisses un petit peu trop exposées d'un combat précédent que vous voudriez bien looter, vous vous mettez à l'abri mais dans la portée de cette ulti là et vous pouvez aller récupérer des objets dans les caisses sans vous en approcher. En revanche, ça ne marche pas avec les ce qu'on appelle les car package qui tombe du ciel. Il faut pas déconner, faut attendre qu'il soit ouvert pour pouvoir les looter. Ça serait trop facile. Sinon, ils ont aussi rechangé des choses sur Mirage, qui est un de mes persos préférés, qui fait des vannes débiles tout le temps et qui, du coup, maintenant devient invisible, par exemple, quand on relève un allié. C'est super intéressant. Ça permet de faire des trucs assez rigolos et vos doubles suivent vos mouvements si vous le désirez. Donc, c'est pratiquement impossible pour un ennemi de savoir qui est le vrai, qui est le faux maintenant. C'est beaucoup plus intéressant. Ça rend le personnage beaucoup plus viable, surtout pour les joueurs pros. L'autre truc important, c'est que techniquement le jeu a été vachement optimisé. En revanche, chez certaines personnes, l'update s'est pas très bien passé, ils ont plein de textures pétées, etc. Il y a une option de réparation des fichiers du jeu dans le launcher, utilisez-la. Alors des fois c'est hyper long, des fois ça va plus vite de virer le jeu, de le réinstaller, ça dépend de votre connexion, mais c'est le seul moyen pour pouvoir récupérer un jeu fonctionnel. Ça arrive parfois, moi tout s'est très bien passé et le moteur est bien meilleur. J'ai vraiment c'était déjà pas un jeu qui ramait, mais alors là c'est vraiment super fluide. Je suis assez impressionné du boulot qu'ils ont réalisé techniquement là-dessus. Et puis bon, ils ont changé plein de trucs au niveau de la quality of life, comme on dit en anglais. Donc des trucs qui faisaient chier avant parce que c'était vraiment pas des bonnes idées, du style les quêtes journalières qui vous donnaient des défis sur une zone spécifique de la map, sachant que les maps tournent. Donc tu pouvais pas les faire parfois parce que t'avais pas la bonne map sous les yeux à ce moment précis de la journée, donc c'était juste chiant. Donc ils ont dégagé tous ces trucs là, que ça réfléchit pas mal, et ceux qui étaient accros vont continuer de jouer. Je trouve que vraiment la fluidité en termes de mouvement, les enchaînements quand tu veux glisser du terrain, attraper une corde, etc., c'est encore bien mieux qu'avant, si c'est possible. C'est évidemment lié à la fluidité du moteur, mais en tout cas c'est du bon boulot que fait la team de Respawn sur ce titre, qui a évidemment leur poule odeurs actuellement. En revanche, le prix des skins ne baisse pas, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas très grave, elles sont toujours relativement, comment dirais-je, intéressantes, pour ne pas dire autre chose.
Ça, ouais.
Donc, je n'ai aucun problème pour garder mes sous-sous. Merci beaucoup à la direction artistique de Apex Legends.
Et on passe du côté des apps, c'était ton gros dossier de la semaine, le Pi Hole 5.
Ouais, qu'est-ce que c'est que le Pi Hole? C'est un trou noir, en fait, tout bêtement, pour aller aspirer toutes les publicités qui voudraient arriver sur votre réseau local à la maison. En fait, c'est un système qui est ultra pratique, que j'ai expliqué donc dans un dossier publié cette semaine sur Geekzone, qui vous permet de bloquer certains, ou surtout dans sa version 5, donc les mouchards et surtout les pubs, quel que soit le device, l'appareil qui va essayer de se connecter sur votre réseau local. C'est particulièrement intéressant dans le cadre de vos appareils mobiles, tablettes et smartphones, puisque au lieu d'avoir un problème sur vos PC, vous vous en foutez, vous avez votre navigateur. Vous pouvez mettre un adblock si vous le désirez. Fin du problème. En revanche, sur vos smartphones, vous allez avoir des pubs qui se baladent sur certains jeux gratos, dans certaines applications ou carrément évidemment dans votre navigateur et sans avoir la possibilité de bloquer les pubs, par exemple sur certains navigateurs sur Android. Vous savez que sur iOS, on peut rajouter des bloqueurs de contenu. Et là, avec ce truc-là, ça bloque quasiment tout partout. Alors attention, je dis quasiment parce que ça ne marchera pas avec YouTube, ça ne marchera pas forcément avec Instagram, etc. Ça ne marchera pas en fait avec les produits qui utilisent la même adresse pour livrer le contenu et les pubs, puisque là, c'est un système qui est basé sur le DNS. Le DNS, c'est la façon dont en fait votre ordinateur va aller demander l'adresse de telle ou telle chose à aller chercher. Quand vous tapez geekzone.fr, ça va traduire directement avec l'adresse, avec les petits chiffres bien chiants à retenir de notre serveur, et c'est comme ça pour tout Internet. Et évidemment, quand une page web dit « Ah tiens, ici, il faut que je mette une pub, donc c'est tel domaine », et ben là, Paywall fait « Ah bah non, en fait, toi, t'y vas pas, on va le dégager, ce truc-là ». Et en plus, c'est suffisamment bien fait pour pas avoir des trous dans la page, etc., mais ça sera toujours moins efficace qu'un script, sauf que vous avez directement dans votre navigateur, par exemple. Donc, comme c'est relativement facile à mettre en place, que ça tourne partout maintenant, avant, ça s'appelle comme ça, parce que ça tournait que sur Raspberry Pi. Maintenant, ça fonctionne partout. Moi, j'ai toujours une vieille AirPi qui sert à ça, en fait, à la maison. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un gros modèle. Hein. Ça prend zéro ressource de faire tourner ce genre de choses. Du coup, je me suis dit que ça serait le moment d'en parler. Et du coup, j'enchaîne sur un truc qui est en développement depuis plus d'un an, mais qui est aussi intéressant, qui fait la même chose, qui s'appelle AdGuard Home. Et AdGuard Home, je vous l'ai linké aussi dans le billet qui accompagne le podcast. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais la team AdGuard, c'est les mecs qui font justement les bloqueurs de contenu et les bloqueurs de pub que je préfère en fait sur le marché actuellement.
On en a beaucoup parlé dans les forums en tout cas.
Voilà, exactement. Et a priori, il sera encore plus efficace que Paywall sur ce système avec la version Home. Alors, ça ne s'installe pas de la même manière, mais c'est tout aussi simple. Hein. Et du coup, ils gèrent en plus out of the box dès l'installation, donc un truc qui est plus compliqué à mettre en place avec Paywall, qui est ce qu'on appelle le DNS over HTTPS ou over TLS. En fait, c'est le chiffrage carrément de vos requêtes au niveau du DNS. Alors ça, c'est des choses, on rentre dans des trucs un peu plus techniques, mais en gros, le but du jeu, c'est vraiment d'être tranquille chez vous et ce qui sort de votre réseau n'est pas interprétable par qui que ce soit. Et donc, c'est une sécurité pour votre vie privée supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui sont dispo. En plus, ça va être généralisé. Vous allez entendre parler parce qu'il y a même Windows qui prépare l'arrivée du DNS over HTTPS directement au niveau de Windows 10. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent sur cette problématique. En tout cas, je vous rappelle que AdGuard, si vous avez des oh là là, vous dites oui, mais là c'est une boîte privée et tout. Oui, certes, mais en fait ils ont un business model qui tient vachement la route, qui est la vente d'un produit qui s'installe au niveau de votre OS pour tout bloquer. Et sinon, tout ce qui est bloqueur de contenu pour les navigateurs et iOS, c'est gratos, ou Android d'ailleurs. Ils ont un produit, je crois. Et AdGuard Home est directement disponible sur GitHub avec disponibilité du code, etc. Ils sont disponibles aussi sur un groupe Telegram où ils sont très actifs. Ils ont un forum, etc. Donc c'est pas du tout des mecs. Ils jouent la transparence à 1000%. Et en revanche, ils sont même plus accessibles que certains projets où il y a des guerres de clochers chez certains. Donc du coup, ne vous prenez pas la tête avec ça. Testez les deux et prenez celui que vous préférez. Mais en tout cas, vous bloquez pas parce que soi-disant, c'est pas un projet open source complet. Oh là là, des gens qui font de l'argent, quelle horreur, quoi. Développement des trucs, oh mon dieu.
C'est scandaleux.
Voilà, c'est honte.
Allez, on passe du côté de la culture. Est-ce que tu avais entendu parler du projet Biosphere 2?
Pas du tout.
C'est vrai?
Pas du tout.
Alors, il faut que tu mettes le documentaire dont je vais parler, qui s'appelle Spaceship Earth. Spaceship Earth, c'est un documentaire donc de Matt Wolff qui s'intéresse à cette expérience baptisée Biosphere 2. Et Biosphere 2, c'est quoi? C'était en 91. Il y a 8 individus qui ont décidé de passer 2 ans en quarantaine dans une espèce de mini-réplique de l'écosystème terrestre. Donc, c'était un truc complètement fermé, coupé de l'extérieur, auto-sustainable, comme ils disent, et donc complètement autonome. Alors, bien évidemment, le documentaire s'intéresse à cette expérience qui peut de prime abord paraître un peu farfelu, mais aussi aux gens qui sont derrière et comment ils en sont arrivés là. Et c'est là que je trouve que le documentaire est vraiment passionnant. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous révéler, mais à la base, en fait, on retrouve une espèce de communauté, de groupe d'artistes, de scientifiques, de penseurs qui étaient réunis à l'époque sous la bannière du Theater of All Possibilities, qui était une sorte de théâtre qui proposait des pièces justement qui allaient dans cette direction-là de réflexion sur la vie, sur la philosophie, sur la science, etc., autour d'un monsieur qui s'appelait John Allen, et c'était fin des années 60, et c'est un groupe, une communauté qui va évoluer en fait, et ils vont s'intéresser à tous des sujets, à tous les sujets qui les relient en fait, donc comme l'écologie, les sciences, la technologie, l'histoire, et ils vont avoir une espèce d'aura un peu bizarre de secte, alors que quand on regarde le documentaire, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et c'est absolument passionnant en fait de suivre ces individus qui ont tout simplement décidé d'aller au bout de leurs aspirations et qui vont s'en donner les moyens en fait. Ils vont se financer en investissant par exemple dans une galerie d'art à Londres, etc. Donc ils vont générer de l'argent, et ce qui va leur permettre donc de vivre dans cette espèce de communauté autonome, et puis d'aller vers ce projet Biosphere 2 qui est assez foufou. Donc je vous invite à mettre le documentaire, ça s'appelle Spaceship Earth, et il faut le commander chez Bob VHS parce que malheureusement j'ai vérifié, c'est pas encore disponible chez nous.
Super, merci pour tes recommandations. Comment font les gens normaux, facile?
Eh ben ils se rencardent sur Bob VHS.
Ah oui, d'accord.
Très bien.
Ouais, les pauvres. Après, ils vont trouver sur des sites web qui existent maintenant d'ailleurs. Merci à nos fans qui font des blagues comme ça sur nos vannes débiles.
Ça nous a fait beaucoup rire en tout cas. Et on reste dans la culture avec Solar Opposites. Solar Opposites, c'est la nouvelle série animée de Justin Roiland. C'était la moitié de Rick et Morty avec Dan Harmon. Et ici, il bosse avec Mike McCahan, qui est aussi un scénariste sur Rick et Morty. C'est à lui qu'on doit pour les fans la fameuse scène du Pickle Rick. Voilà. Si vous regardez Rick and Morty, ça vous dirait quelque chose. C'est Rick est transformé en cornichon, qui est doué donc d'une conscience. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Donc c'est une série qui avait d'abord été conçue par la Fox, qui a pas voulu la diffuser, qui l'a mise au placard, et puis ça a été racheté par Hulu. Et ça tourne autour d'une famille d'extraterrestres qui ont dû quitter leur monde idéal qui a été détruit par une météorite, et donc ils sont obligés de s'installer au fin fond des États-Unis. Et tout le monde n'est pas particulièrement ravi. Ils sont un peu chiants et les gens les aiment pas trop parce qu'ils sont différents. Alors comme d'habitude avec Roiland, c'est une excuse pour faire la critique de notre société. C'est souvent très méta, c'est toujours vulgaire et ça plaira clairement pas à tout le monde. Mais si vous êtes fan de Rick et Morty, moi je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. Ils ont des rayons pour tout en fait. Ils ont des rayons pour grandir, pour diminuer, pour être plus intelligent. Ils ont aussi un dumb ray qui est donc un rayon pour être plus idiot. Et il y a un moment où ils sont en train de se battre avec ce truc là et il y a un des tirs du dumb ray qui tombe sur un ouvrage scientifique et l'ouvrage scientifique se transforme en Bible. Voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Justin Roiland donc qui joue le rôle de Corvo, le personnage principal. On a aussi Thomas Middleditch qui était dans Silicon Valley qui joue un des personnages. Il y a quelques guests comme Alfred Molina, Christina Hendricks, enfin bon, comme d'habitude dans ce genre de dessin animé. Et il y a une saison de 8 épisodes qui est disponible pour le moment sur Hulu. Voilà, on passe du côté de la tech avec un petit hack sur le, c'est quoi, c'est le Thunderbolt, c'est ça?
Ouais, sur le son qui a fait du clic. Oh là là, ça a fait du
oui,
clic.
Oui, j'ai vu passer ça
semaine.
Partout.
Ah mon dieu, oh là là, attention.
C'est la fin du monde.
Sur le Thunder quoi déjà, c'est quel port, c'est là, il a quelle forme, mais c'est le truc où il faut chercher dans quel sens ça rentre. Ah mon dieu, non, j'en ai lu de la merde sur ce truc. Donc c'est le Thunder Spy, le nom du hack. Ça a été découvert par un chercheur extrêmement intelligent qui a fait des travaux extrêmement poussés pour donc aller nous pirater le Thunderbolt, qui est une techno qu'on retrouve dans plein de machines depuis assez longtemps et qui effectivement, si on lit certains papiers, oh mon dieu, c'est grave. Alors en fait non, du tout. Alors déjà pourquoi c'est pas grave? Premièrement parce que il faut un accès à la machine. Donc déjà quand on vous parle de piratage, de hack, etc., les gens imaginent qu'ils vont ouvrir Geekzone et qu'ils vont se faire pirater par une bannière de pub qu'on n'a pas. Donc bon, nous ça nous compte pas, ça nous a jamais concerné. Mais bon, voilà, c'était ça les problématiques de piratage qui font flipper la planète entière. Oui, l'époque où on ouvrait un email et on se trouvait avec des worms qui se propageaient sur toute la planète, c'était rigolo. Mais ça n'existe plus en ce moment. Enfin normalement, si les gens ont patché, ne sont plus sous Windows XP, tout va bien. Mais du coup, on se retrouve avec un hack où il faut non seulement être physiquement en présence de la machine, mais il faut l'ouvrir. Il faut utiliser $600 de matos, a priori, et savoir s'en servir, hein, vraiment, pour aller regarder quel chip Thunderbolt est sur la bécane, lire son firmware, le reprogrammer et refermer la machine sans que personne s'en aperçoive.
Faut déjà être motivé.
Donc, voilà. Donc, alors effectivement, ça existe. Oui, ça peut être un problème. Alors maintenant, si vous bossez pas sur, vous avez la solution au coronavirus. Oui, peut-être que quelqu'un va s'intéresser à votre PC. Mais sinon, franchement, je doute qu'il y ait un problème. Ça devrait aller. Je vous ai linké le papier d'Ars Technica qui explique techniquement pourquoi c'est n'importe quoi de s'affoler sur cette histoire. Et puis, en plus, on rappelle au passage que non seulement ce hack est très difficile à mettre en œuvre, mais en plus, il marche pratiquement pas sur Mac déjà. Et que sous Windows, si vous avez une machine un peu moderne, c'est pareil, c'est des trucs qui ont été patchés sur les dernières bécanes. Donc, c'est un hack qui marchait sur le hardware qui était en vente en 2019. Donc voilà, on est en 2020. Donc déjà, les machines en vente actuellement, c'est mort. Tu peux ranger ton hack. Mais effectivement, voilà, c'est le genre de hack qui est utilisé par des services secrets de certains pays avec beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour aller récupérer des infos et plomber des machines de gens qui vont tracer, qui rentrent chez eux avec leurs machines sans se douter de rien, tu vois. Mais sinon, pour les utilisateurs normaux, tout va bien. Vous pouvez continuer à pas utiliser vos ports Thunderbolt, malheureusement, parce que je sais que les gens sont souvent en USB et rarement avec autre chose, quoi. C'est triste.
Et on termine cette partie tech et ce 132e épisode de Torréfaction avec une petite réflexion sur la guéguerre. Alors, j'utilise les air guillemets entre iPhone et Android et leurs CPU respectifs.
Voilà, je rebondis sur un petit billet hyper intéressant de John Gruber, qui est un mec qui fait un énorme blog qui est aussi moche qu'il est populaire.
C'est lui qui a inventé le Markdown, c'est ça, hein?
C'est ça, c'est le mec qui a inventé le langage Markdown, qui est en fait donc un blog qui s'appelle Daring Fireball, qui est largement au niveau... il parle de trois choses principalement, la tech au niveau du monde d'Apple, la politique un peu de temps en temps quand vraiment Trump l'a vraiment saoulé, et de baseball de temps en temps parce qu'il adore ça, ou de football américain, je sais plus, enfin d'un sport ricain que je ne lis pas du coup, donc je ne sais plus. Mais il est surtout extrêmement intéressant parce qu'il a beaucoup de recul par rapport à tout ça. C'est un mec qui est dans le business depuis très très longtemps, et en fait il remet en lumière un truc qu'on oublie souvent et qui est hyper intéressant parce que justement c'est une position en informatique qu'on n'a pas eu souvent, et c'est un truc qui est intéressant au niveau du débat qu'on pourrait avoir sur le forum sans se lancer des cailloux. Ça serait pas mal sur cette question là c'est qu'en fait aujourd'hui Apple a un processeur dans le monde iOS qui est donc toute sa série des puces A11, A12, A13 aujourd'hui, tu vois, plus les dérivés encore plus puissants pour iPad, qui sont ultra puissants. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est à quel point ils sont ultra puissants, puisqu'en fait on n'a pas de point de comparaison direct, dans la mesure où dans le monde Android ils ont des processeurs généralement des Qualcomm et des dérivés locaux, on va dire. Il y a Samsung qui a ses propres trucs qui sont pas très bien d'ailleurs, donc ça a été un souci en Corée. Il y a quelques mecs de chez Samsung qui se sont fait débarquer parce que le processeur était pas assez puissant. Et il y a comme ça des variantes un peu chez tout le monde, mais le gros du lot, les processeurs les plus puissants que tu vas retrouver dans les flagships Android, c'est chez Qualcomm qui sont fabriqués et conçus, et la gamme s'appelle Snapdragon. Donc aujourd'hui on est sur un Snapdragon 865 dans tous les téléphones ultra chers du monde Android, et en fait on s'aperçoit qu'il est 1,5 fois moins rapide que la 13 d'Apple. Donc la 13, c'est celui qu'il y a dans l'iPhone 11. Donc on se dit, niveau tarif, tout va bien, quoi. On est dans des trucs logiques. 1,5 fois, bon, ok, super. C'est pas très grave. Sauf que c'est le même processeur que Apple a mis dans l'iPhone SE à 400 balles. Donc forcément, là, ça commence à créer un petit problème, parce que si tu commences à comparer les milieux de gamme, bah là, c'est plus du tout la même histoire. Et donc, la blague, c'est que le mec s'est amusé à regarder ce qu'il y avait dans les milieux de gamme du côté Android. Et donc, tu prends un Motorola, qui est pas donné, hein, c'est 400 balles aussi, un Moto Z4. Et en fait, tu te retrouves avec un truc qui est quand même tranquillou au niveau d'un iPhone 6S. Donc, le 6S, c'était l'année dernière.
Oui, ça date, ouais.
On est sur un truc ultra vieux. Donc, c'est ultra vieux dans le monde des smartphones, on se comprend. Donc c'est assez rigolo, et du coup ça m'a un petit peu travaillé. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que là tout le monde on se retrouve dans une situation où Apple en fait a ce processeur, il est exclusif, il est fait chez eux, il est vendu que pour leur propre matos, il est fait que pour ça, et personne ne peut l'acheter. Et en fait, à l'inverse, s'ils avaient eu un processeur de merde, on inverse la situation, le Snapdragon d'un coup explose les processeurs A machin. Tu sais, au bout d'un moment, si ça se passe pas bien, Apple, ils vont mettre des Snapdragon à l'intérieur de leur téléphone, et puis en fait, ça change rien à la motivation d'achat des gens, quelque part, puisque les gens, ils achètent pour les applications, pour iOS, pour l'écosystème.
Ouais.
Et du coup, ils sont dans une position assez intéressante là-dessus, et ça va être rigolo de voir comment l'avenir va jouer, parce que Apple, en plus, ça les a jamais dérangés. Hein. Ils ont eu le problème sur leur... Parce que dans les Mac, c'est des X86, voilà, c'est ce qu'on a dans nos PC. C'est pareil, les gens achètent des Mac quand même, tu vois, donc on s'en fout. Et puis, ils ont eu la problématique, parce que quand les 68 000, c'est devenu vraiment de la merde et trop lent par rapport au reste du marché, ils sont passés sur PowerPC. Quand les PowerPC, c'est devenu trop lent, ils sont passés sur les processeurs Intel. Et du coup, les mecs gèrent, en fait, de manière complètement différente leur problématique de CPU, alors que le CPU, c'est le truc vraiment qui définit la plateforme chez les autres, tu vois. Eux, c'est vraiment le côté software, hardware, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Je vous conseille d'aller lire le billet de notre ami John Gruber. Et puis, si vous avez des réflexions là-dessus, je serais intéressé de les lire sur le forum. Et encore une fois, c'est pas du tout pour la guerre, parce qu'on s'en fout. La puissance CPU, en fait, sur la problématique des smartphones, elle est intéressante que si on en fait vraiment quelque chose.
Ouais.
Et puis, on s'aperçoit que les trois quarts des gens avec leur smartphone, excusez-moi, mais voilà quoi, c'est quand même pas glorieux ce que font des ordinateurs de poche ultra puissants la plupart des utilisateurs. Mais là, justement, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de mettre en avant ce qu'arrive à faire le monde Apple avec certaines applications, surtout dans le domaine de l'audio, par exemple, où tu vois des mecs qui ont carrément des workflows complets pour sortir des morceaux avec des applis qui n'existent pas du tout sur Android, déjà parce qu'il n'y a pas de business, mais qu'en plus, il n'y a pas le framework derrière pour que toutes les applis se parlent entre elles de manière fluide, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, je suis d'autant plus intéressé que les rumeurs de Mac qui passeraient sous ARM, par exemple, continuent. Donc, dans quelle mesure ça va impacter le business d'Apple? Enfin, c'est un bordel monstre. Moi, j'aime bien ce genre de problématique de hardware. Tu vois, je fais, comment ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe?
C'est tes séries télé à toi.
C'est mes séries télé. Bah oui, non, mais tu sais, pendant que toi tu regardes des séries télé, en ce moment j'installe des ISO Linux. Hein, donc, tu m'étonnes que mon backlog il descend pas. Donc, je teste des OS. Si vous saviez, les gens. J'espère avoir le temps de continuer ce week-end, mais c'est n'importe quoi. Effectivement, oui, j'ai pas regardé, je crois, la télé une seule fois en trois semaines. Hein.
Pas mal.
Donc, au niveau du confinement, pour avancer dans les saisons que j'avais en retard,
raté. C'est mort.
Complètement raté.
Et c'est la fin de ce 132e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bonne installation d'ISO Linux.
Ouais, je continue. Là, j'ai fait le top 20 de DistroWatch. Je vous écrirai pas d'article sur le sujet parce que c'est pas très intéressant. Mais j'en suis rendu à des trucs encore plus abscons. Et puis là, je m'attaque à l'émulation parce que j'aime pas ce qui existe en pack préconçu, on va dire. Mm. Donc, voilà. Et c'est pareil, hein, je suis obligé d'appeler Bob VHS. pour avoir certains éléments manquants, on va dire. Mais heureusement, il est réactif, ce petit gars, parce que sinon, c'est embêté. Mais c'est pareil, c'est pas du tout chronophage de te prévoir tes packs d'émulation perso. C'est ça qui est bien, ça prend pas du tout 1000 ans.
Rien à voir avec de la procrastination, j'en suis sûr.
Ah mais non, pas du tout, de quoi tu parles? Mais non, le travail est toujours fait à l'heure, parce qu'il enfin... De quoi parles-tu? Au revoir. Je ne t'aime pas beaucoup, finalement.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.